Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour du côté de la Maison des Associations d'Amiens Métropole auprès de Anne-Élodie Duflo et Faustine Bligny. Bonjour.
Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Pendant le confinement à la Maison des Associations, vous avez proposé de nombreuses formations à distance. C'est important pour vous de continuer à accompagner de la sorte toutes les associations amiénoises ?
Oui, beaucoup. Surtout, peut-être encore plus en temps de confinement où elles peuvent être un peu perdues sur comment faire, qu'est-ce qu'on a l'autorisation de faire ou pas, etc. Et c'est quand on a le temps, c'est aussi l'occasion de prendre le temps pour faire évoluer son association ou la gestion de son association. Et c'est pas parce qu'on était confinés que les créations d'associations se sont arrêtées. Il y a eu beaucoup de créations, j'ai encore deux demandes de création ce matin.
Donc il y avait une demande d'accompagnement aussi, une demande de la part des associations.
Beaucoup.
Vous procédez donc sous la forme de webinaires la plupart du temps. Et là, pour les formations à venir de janvier-février, vous songez peut-être à évoluer en présentiel, possiblement si jamais les conditions sanitaires le permettent.
On espère. Quand on a préparé le programme de formation, on s'est dit qu'on allait garder au moins une formation en webinaire par mois, parce que ça peut être un autre public, ça arrange pas mal de monde, mais... Le présentiel a d'autres avantages, donc on aimerait bien aussi y revenir. Et donc les formations fin janvier et début février, on devrait commencer à reprendre le présentiel si les conditions le permettent.
Vous avez senti justement ce changement de public à partir du moment où vous êtes passé en webinaire, en format sur Internet ?
Beaucoup. Il y a certaines personnes, certains bénévoles qui viennent aux formations présentielles et qu'on ne voit pas au webinaire. Il y en a beaucoup qui viennent au webinaire et qu'on ne voit pas en présentiel. Il y en a qu'on voit aux deux, mais c'est vraiment des publics différents. Je ne sais pas si c'est l'horaire, le format qui convient ou le fait aussi, c'est souvent des formats plus courts parce qu'en webinaire, on ne va pas rester 3 heures en ligne. C'est vraiment trop fatigant pour les personnes qui suivent les webinaires. Mais oui, le format 1 heure, je pense que ça plaît bien aussi. Et le faire de chez soi, tranquillement, je pense que ça plaît pas mal aux bénévoles.
Et qu'est-ce qu'il est ressorti donc des dialogues avec les associations en ce moment ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou des insécurités qui reviennent régulièrement ?
Vaste sujet. il y a tout ce qui est financement, il y a tout ce qui est organisation d'activités, le fait de ne pas pouvoir... se réunir, de mettre ses activités en place, de continuer les projets... Et la question des financements, évidemment, parce que donc pour les associations avec salariés, c'est les mêmes problèmes que pour toutes les entreprises qui ont des salariés. Et pour les associations sans salariés, il y a aussi des problèmes de budget, d'activités non financées, de personnes qui ne peuvent pas... En fait, si un club ne peut pas relancer l'activité, il y a moins d'adhérents, il y a moins de bénévoles, etc.
Parce que les associations ne dépendent pas forcément des subventions, elles ont aussi leurs propres activités qui leur permettent de rentrer dans leurs frais aussi.
Tout à fait, les subventions ne sont qu'une part pour... ça fait un coup de pouce pour aider, plus ou moins important selon les associations, les activités. Mais il y a beaucoup d'autofinancement ou de financement privé, et c'est souvent des financements, mais même les subventions sur des projets, et pas sur le fonctionnement de l'association. Donc s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de financement et...
Et ça fonctionne de plus en plus comme ça aussi.
Beaucoup.
Vous proposez donc dans le cadre de la Maison des Associations une formation que jeudi prochain de 18h à 19h sur réviser ses statuts pour gérer son association à distance. C'est aussi une problématique que les associations rencontrent en ce moment.
Beaucoup. Alors déjà, réviser ses statuts, ça fait toujours du bien que l'association ait 2 ans, 10 ans ou si vous projetez de créer une association, bien réfléchir au statut parce que c'est le contrat qui va lier les membres entre eux. Et vous êtes obligé de les suivre. Et c'est le problème qu'il y a depuis le confinement. Si vos statuts disent on doit organiser notre assemblée générale en présentiel, enfin, même pas. Si les statuts ne disent pas que vous pouvez organiser votre assemblée générale à distance, vous ne pouvez pas le faire. Donc il y a eu des ordonnances, des décrets, mais à chaque fois il faut attendre. On a le droit de s'organiser à distance. Enfin, on avait le droit de se réunir à distance, mais pas de voter par correspondance ou pas de consultation écrite. Enfin, c'était très compliqué. Surtout que dans les associations, il n'y a pas toujours quelqu'un qui s'y connaît assez bien en informatique pour gérer une visioconférence. ou même les bénévoles eux-mêmes qui ne vont pas être à l'aise. Je passe sur quel logiciel prendre, avec quel logiciel voter, etc. Et donc, que les problématiques sanitaires continuent ou pas. Beaucoup d'associations trouvent aussi que pour pouvoir se réunir à distance, ça peut être bien, même quand on n'est pas confiné. Ça permet aussi à des personnes qui ne pourraient pas se déplacer d'assister à l'Assemblée Générale. Mais pour ça, il faut que ce soit dans les statuts.
Et vous proposez d'ailleurs justement une autre formation, donc plus tard en février, sur réussir son Assemblée Générale en présentiel et en ligne. Oui. C'est aussi un aspect plus technique cette fois-ci sur l'organisation de l'Assemblée en soi.
Tout à fait. En amont, qu'est-ce qu'il faut préparer pendant l'Assemblée Générale, comment on fait pour réussir une Assemblée Générale qui soit à la fois conviviale et efficace. Et après, toutes les formalités à remplir. Et donc, cette année, forcément, on a ajouté la petite partie en ligne, puisque il y a des petites subtilités à savoir, par exemple, pour le procès-verbal de l'Assemblée Générale, si vous la faites en ligne, les petites choses à ajouter, comment est-ce qu'on gère une feuille de présence. Déjà, en Assemblée Générale, il faut une feuille de présence, mais en ligne, comment est-ce qu'on fait en plus? Et en amont, comment est-ce qu'on prépare? Comment est-ce qu'on fait les convocations? Est-ce qu'on profite de l'Assemblée Générale, même en ligne, pour faire un petit temps de rassemblement des bénévoles, des adhérents, et pas juste faire voter des budgets? Voilà, on va voir tout ça ensemble.
Et vous proposez une autre formation, se réunir et s'organiser à distance jeudi donc 21 janvier de 18h à 19h. Là aussi, ça concerne la vie de l'association, comment la gérer à distance et comment faire communauté aussi et faire une association à distance.
C'est ça, on a eu beaucoup de demandes à ce sujet l'année dernière pour tout ce qui est comment on s'organise, quel logiciel on utilise, comment est-ce qu'on peut continuer à avancer dans nos projets sans se rencontrer physiquement. Et je l'ai fait justement avec Faustine.
C'est ça. Et moi qui appartiens sur la... J'interviens sur la partie du coup numérique, outils à distance, etc. Donc on se complète bien avec Anne-Élodie par rapport à ça.
Quel type d'outils par exemple on peut utiliser en...
Il y a les outils dont là on utilise beaucoup, hein, tout ce qui est visioconférence, mais il y a aussi les outils collaboratifs de gestion de projet, comme Trello, Slack, enfin il y en a plusieurs. Et puis, collaborer à distance, ça va aussi par l'envoi de mails, etc. Enfin, tout ce qui va être maintenant sur du numérique. Et que ce soit pour travailler, pour échanger, enfin, sur plein de thématiques possibles finalement.
Et, voilà, et penser la collaboration à distance, c'est pas...
C'est pas inné, c'est pas évident pour tout le monde, ça demande de la préparation. Il faut être sensibilisé déjà même à cette pré-étape, cette première étape finalement de sensibilisation du numérique au sein même de l'association et pour tous les membres, et justement pour ne pas laisser des membres sur le côté, parce que justement ils ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique, et ça c'est quelque chose auquel on fait attention, on essaye d'accompagner au mieux les associations là-dessus, de lutter contre la fracture numérique.
Vous l'avez senti justement cette fracture numérique ces derniers temps, ces derniers mois, dans le cadre du confinement, entre différentes associations, différents membres?
On a senti qu'il y avait un grand besoin d'accompagnement, puis sur des choses de base, et qu'il y avait surtout beaucoup de disparités au sein même des associations, entre le bénévole qui a l'habitude d'utiliser les outils numériques et celui pour qui c'est peut-être pas du tout une habitude et qui doit prendre cette habitude et se former. Et donc justement, c'est ça la difficulté qu'il peut y avoir dans les associations, c'est essayer d'avoir un niveau commun sur l'utilisation des outils numériques. Donc oui, on l'a ressenti, et il y a un grand besoin d'accompagnement et de formation là-dessus, ça fait aucun doute.
Et pour animer aussi des réunions aussi à distance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on est habitué à animer en présentiel.
Pas du tout.
Et puis il y a des petites choses à savoir, on le voit, je pense qu'on a tous participé à des visios où des fois on est 15 et où on a plusieurs micros qui sont allumés et puis on entend la tasse à café posée sur la table.
Le chien,
sauf que quand on est... 15, 20, 50 derrière des écrans, en fait, c'est pas possible, c'est pas agréable. Et donc, c'est plein de petites choses qu'il faut savoir, justement, comment on anime un webinaire, comment prévenir qu'il faut couper le micro, enfin, ce genre de choses. Enfin, des petits trucs et astuces comme ça.
Et la fluidité est un peu différente aussi dans les échanges. On doit peut-être prévoir des temps de questions particuliers plutôt que de laisser tout le temps les micros ouverts et que tout le monde puisse réagir.
C'est ça, ça demande une organisation particulière.
Quand vous intervenez en présentiel, vous voyez au visage s'il s'interroge, s'il y a des petites questions, si un tel parle avec son voisin parce qu'il n'est pas sûr d'avoir bien compris telle ou telle chose. Quand vous êtes en visioconférence, vous avez votre présentation qui envahit tout l'écran, vous ne voyez même pas les visages et souvent les gens coupent leur caméra, ce qui est meilleur pour l'environnement. Mais voilà, c'est justement, je pensais à ça, parce que la différence dans mes supports entre le présentiel et en webinaire, c'est que je rajoute une petite diapo question pour bien penser à couper. Et c'est plein de petites choses comme ça, qui après peuvent aussi s'appliquer en présentiel, mais ça fait évoluer tout le monde. Mmh. Et dans les associations, je me disais, ça dépend aussi beaucoup, beaucoup, comme tu disais, la disparité entre, même au sein d'associations, si vous avez un nouveau bénévole qui est arrivé, qui lui fait plein de visioconférences dans le cadre du travail, il va vous gérer l'Assemblée Générale d'une main de maître, sans problème. Si vous avez que des personnes qui ne sont... je pense à mon père, il ne sait pas utiliser des logiciels, ne serait-ce que pour les appels en visio. Voilà, ça peut être beaucoup plus compliqué de s'organiser. C'est ce que disait Faustine, un webinaire, c'est pas, enfin une visioconférence, c'est pas juste allumer des micros et des caméras et parler.
Il y a tout un savoir-être en fait, et savoir dire, comment parler aussi, qui doit se développer.
Oui, alors ça, même moi je sais que personnellement j'ai des efforts à faire sur le sujet. Parce que c'est pas évident d'être clair, concis. On l'avait dit, notamment sur nos formations, on a pris l'exemple où on ne fait pas 3 heures de webinaire parce que,
non.
Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est lourd, en fait. Physiquement, mentalement, c'est très lourd. Donc, il faut réussir à dire un maximum de choses et les dire bien sur un temps plus court. Donc ça, c'est pas forcément évident. Éviter les « e », comme je fais tout le temps, par exemple. Enfin, c'est des tics de langage après qu'il faut travailler, c'est pas évident, mais j'ai espoir qu'avec l'habitude et l'entraînement, c'est des choses qui se corrigent. Après, il faut en avoir conscience aussi. Donc, voilà.
J'ai remarqué les gens qui, eux, quand on a en face de nous des personnes qui sont à l'aise avec le numérique, elles vont plus facilement elles peuvent monopoliser l'attention. Soit parce qu'elles vont rapidement écrire leurs questions ou elles vont plus facilement prendre la parole pour poser des questions. Les autres non, ou les gens aussi osent moins. Et ce qui est dommage aussi en webinaire, c'est qu'il n'y a pas l'effet de groupe, la connaissance des associations entre elles qui se fait aussi facilement qu'en présentiel.
Alors on essaie de dédier des petits temps, mais forcément c'est différent que du présentiel.
Il n'y a pas ce petit moment informel en fait, entre les moments de prise de parole où l'on peut discuter avec son voisin, sa voisine.
Autour de la table de café, quand on arrive 5 minutes en avance ou en ressortant également, en se dirigeant vers le parking, et sans compter les temps d'atelier pendant les formations.
Après, il est possible de créer des temps participatifs, mais je ne l'ai jamais testé à 50 ou 100 personnes. Et puis, il faut avoir les bons outils, il faut être bon animateur.
Et alors, pour l'avoir testé, il faut avoir le temps. Parce que les gens se retrouvent en atelier. En plus, ils sont seuls, vous ne pouvez pas forcément intervenir pour... Quand vous voyez un groupe qui a l'air de se poser des questions ou de ne pas avancer, ils ne vont pas forcément poser la question, mais vous y allez. Tandis que là, les gens, voilà, ils sont plus tout seuls dans leur coin. C'est le problème des salles, des sous-salles. Là, on est parti sur nos problématiques de formation au webinaire.
Donc certaines formations de la Maison des Associations seront en webinaire toujours ce mois de janvier-février, et puis certaines, on espère, peut-être en présentiel. On verra en fonction de comment les conditions sanitaires évoluent. Vous proposez aussi des formations pour les étudiants de l'UPJV, de l'Université Picardie-Jules Verne. Par exemple, mardi donc 19 janvier de 17h30 à 19h30, vous proposez une formation à gérer les finances de son association. Faustine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, du coup, depuis presque 3 ans maintenant, on est en partenariat avec l'UPJV, donc l'Université Picardie-Jules Verne, justement pour accompagner les étudiants et les asso-étudiantes à la gestion associative, comme on fait avec toutes les autres associations du territoire, et aussi pour créer du lien avec les autres associations du territoire. Parce qu'on est parti du constat où les associations étudiantes avaient aussi des besoins très spécifiques et des contraintes très spécifiques, notamment avec le changement de gouvernance qui est très fréquent, voire chaque année. Donc là, la formation du 19 sur gérer les finances de mon asso, c'est surtout pour les trésoriers ou les nouveaux trésoriers qui viendraient d'arriver dans la gouvernance cette année. Mais c'est aussi une manière aussi pour les trésoriers qui étaient déjà en fonction de remettre un petit peu à jour leurs connaissances. Donc on va balayer tous les grands principes de la gestion financière d'une association. Donc comment créer les documents comptables, quels sont les documents comptables obligatoires ou du moins nécessaires, comment présenter ses comptes, et puis comment on tient une gestion financière au quotidien finalement quand on est responsable des finances dans une association.
Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Qu'est-ce qu'un bilan?
C'est ça, un budget prévisionnel, enfin tous les outils comptables qui sont utiles à la vie d'une association.
Des outils que les étudiants et étudiantes n'ont pas forcément, comme ils débutent, généralement c'est sûrement leur première expérience aussi en association.
Oui, alors c'est souvent le cas, mais après ils arrivent... Ils intègrent la gouvernance quand ils ont déjà été adhérents ou bénévoles pour la même association. Donc, ils ont eu déjà un début de parcours associatif, on va dire. Mais c'est vrai que pour la majorité, ils découvrent ce que c'est la gestion associative. Et puis c'est formateur. Après, comme pour tout le monde, c'est formateur pour les étudiants de justement d'avoir ces responsabilités-là et de se former à la gestion d'une association, puisque c'est des compétences et des savoir-faire après qu'ils peuvent valoriser dans leur cursus. Et on les accompagne aussi là-dessus. Et l'UPJV fait un gros travail aussi de valorisation de l'engagement.
Vous proposez d'ailleurs toujours dans le volet un peu financier une autre formation qui est mardi 26 janvier de 17h30 à 19h30, réservée également aux étudiants de l'UPJV. Ça parle cette fois de la présentation d'une demande de subvention. Ça donne des outils un petit peu sur comment s'y prendre pour faire sa demande de subvention.
C'est ça. Et là, en fait, on construit la formation sur des financements assez spécifiques justement réservés aux étudiants, comme le FSDIE, donc le Fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes, ou des financements comme la Fondation UPJV ou encore le CROUS, où pour la plupart de ces financements, il y a un dossier écrit et un jury oral. Et donc on les prépare justement à quoi mettre dans son dossier écrit, comment constituer son dossier de demande de subvention, et puis à l'oral, comment présenter son projet, comment présenter sa demande de subvention. Donc cette formation est dédiée à ça.
Donc ce sera mardi 26 janvier. Une dernière formation pour ce volet que vous présentez à la Maison d'Association qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est une formation un peu optimiste peut-être, qui porte sur le thème « Organiser un événement ». Donc ça aura lieu mardi 2 février de 18h à 19h. C'est important pour vous quand même de permettre aux associations de se projeter sur leur réouverture et pour organiser des événements en présentiel.
Tout à fait. On va bien finir par en sortir de ces contraintes sanitaires. Et organiser un événement, ça se prépare longtemps en amont. On voit en général un an, oui, je dirais ça.
Ça dépend de l'ampleur de l'événement, mais plus tôt on s'y prend, mieux c'est, j'ai envie de dire.
Ouais, le projet, la recherche de financement, la recherche de partenaires, la recherche de lieux, la communication autour de l'événement, l'organisation des bénévoles. Voilà, ça peut prendre longtemps. Et c'est bien de penser son projet longtemps en amont, y compris, je pense, il y a des associations qui se créent en vue de faire des événements. Donc, mieux vaut s'y prendre dès le départ. Et ma collègue qui anime cette formation prévoit aussi de parler des événements possibles en ligne. Comment transformer un événement qu'on avait prévu en présentiel en ligne. Voilà.
En ligne ou même je pense sous un autre format ou qui respecterait en tout cas les conditions actuelles. Enfin, c'est devenu vachement tendance, les escape games, etc. Ou des choses où on n'a pas forcément besoin d'être en contact direct avec d'autres personnes. Enfin, où la notion de groupe n'est pas forcément obligatoire. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'on peut continuer à penser des choses et à organiser des choses, et il le faut. Parce que sinon, ça serait quand même bien triste si les associations arrêtaient tous leurs événements ou toutes leurs activités. Donc, on est optimiste, on essaye de se dire qu'organiser un événement, cette formation, il peut y avoir du sens et un intérêt. Voilà.
Un groupe de personnes, donc l'association, pense un événement, c'est que ça répond à un besoin, à une envie d'un public souvent beaucoup plus large, et c'est important de le faire.
C'est ça. Et puis, dans la démarche, que ce soit en ligne ou en présentiel, ça est très similaire. Enfin, identifier le constat, les besoins, les objectifs. Comme disait Anne-Élodie, des possibles partenaires, que ce soit à distance ou finalement en présence, il y a des grandes étapes et des grands principes d'organisation d'événements qui restent les mêmes finalement.
Bah, merci beaucoup, Anne-Élodie et Faustine.
Merci
avec
à
plaisir.
Vous.
Toutes les formations sont accessibles donc sous réserve d'inscription préalable. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la Maison des Associations. Je mettrai le lien en podcast de cette émission également. Émission qui touche à son terme. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à demain, 12h et 18h. À demain.